Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et comme chaque semaine, évidemment, fidèle au poste, Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Allez, vous ouvrez aujourd'hui avec nous une nouvelle série des chroniques culturelles de l'Europe avec, comme sujet...
Le théâtre.
Ah.
Et avant de présenter cette chronique, je voudrais dire combien ce secteur, comme toute l'activité culturelle en France et en Europe, souffre de l'état de paralysie que lui inflige la crise sanitaire actuelle. Et au nom de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin, je voudrais réaffirmer notre solidarité avec tous ces acteurs. J'ai donc intitulé cette série de 4 chroniques « Un art européen du théâtre » et j'aurai l'occasion de revenir largement sur ses origines car le théâtre a en Europe une longue et riche histoire. On ne peut pas pour autant affirmer que l'Europe a inventé le théâtre comme le suggérait une série de débats organisés récemment dont le titre ambigu était « Le théâtre, une invention de l'Europe ».
Bon, alors si c'est pas l'Europe qui a inventé le théâtre, qui l'a fait ?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un inventeur du théâtre. Il serait de la même façon difficile de savoir qui a inventé la musique ou la danse. Ce sont des formes d'art qui sont apparues dès la plus haute antiquité dans diverses régions du monde et notamment en Asie. Le théâtre oriental le plus connu est le théâtre no japonais, de même que ce que l'on appelle l'opéra chinois, ce théâtre chanté traditionnel de la Chine. On pourrait citer aussi le théâtre traditionnel de l'Inde ou le théâtre d'ombre de Java, comme les théâtres de marionnettes d'Asie mineure. Ce que je voudrais montrer dans cette série de chroniques, c'est que l'Europe a vu se former puis s'épanouir des formes de théâtre originales et multiples, mais dans un esprit créatif que je vais m'efforcer de montrer. C'est la raison pour laquelle je l'ai intitulé « L'art européen du théâtre ». Car le théâtre est un art, cet art de la représentation devant un public, si bien qu'on utilise aujourd'hui les expressions passe-partout de spectacle vivant ou d'art de la scène. Mais le théâtre désigne aussi, ne l'oublions pas, le lieu, parfois en extérieur, mais le plus souvent intégré à un bâtiment qui porte le même nom et qui a pris, au cours de l'histoire, des formes diverses.
Bon, alors, si on ne peut pas dire qui a inventé le théâtre, est-ce que pour commencer, on pourrait peut-être se dire quand et où le théâtre est apparu en Europe ?
Le théâtre européen est né autour de la Méditerranée, et c'est bien sûr dans la Grèce antique que, comme d'autres formes d'art ou de pensée, ce que nous appelons le théâtre est apparu, et où se sont construits ces bâtiments dénommés théâtres, généralement édifiés en plein air. L'art théâtral est probablement issu de fêtes religieuses, mais il va progressivement devenir un art profane, attirant un public nombreux qui afflue dans les gradins du théâtre de Dionysos, adossé à l'acropole d'Athènes, ou dans ceux de Delphes, d'Épidaure, etc., en Grèce même, ou d'Éphèse à Pergame, sur les côtes de la Turquie actuelle. On en retrouvera ensuite dans l'Empire romain. Le plus important était certainement le théâtre de Marcellus à Rome, qui accueillait jusqu'à 14 000 personnes. Mais on peut aussi en visiter de très beaux vestiges dans le sud de la France, à Orange ou à Vaison-la-Romaine, par exemple.
Alors, à cette époque-là, à quel spectacle public pouvait assister ?
Le public avait le choix entre deux genres dominants, la tragédie et la comédie. Or, la tragédie, c'est le genre noble. Initialement, c'est le récit tragique d'un dieu de l'Olympe, Dionysos. Dès sa naissance, haï par les titans, puis dépecé et jeté dans une urne d'eau bouillante.
Sympa.
Mais son cœur, qui avait été préservé, le fait renaître comme la vigne taillée et rabougrie, qui ne cesse de donner du vin. Ainsi, la tragédie sera le domaine des héros confrontés au destin. Les grands auteurs de la tragédie grecque sont trois, Échille, on peut citer les Perses, Sophocle, qui a écrit Antigone, et Euripide, qui a écrit Iphigénie. Certaines de leurs œuvres inspireront bien des siècles plus tard des auteurs comme Corneille et surtout Racine. Nous aurons l'occasion de reparler d'eux.
Bon, il y en a certains qui préféraient quand même rire avec donc la comédie.
La comédie, c'est le genre populaire. Elle est elle aussi une descendante des fêtes en l'honneur de Dionysos et des fameuses orgies données en son honneur. Et le maître de la comédie grecque, c'est Aristophane. Beaucoup de ses pièces célèbres, les oiseaux, l'Isistrata, les cavaliers, etc., sont aujourd'hui encore d'une modernité étonnante et ont été montées par des metteurs en scène contemporains comme Laurent Pelli ou Alfredo Arias de façon à la fois spectaculaire et truculente, car les comédies d'Aristophane sont souvent des farces énormes dans lesquelles des personnages bouffons échangent des propos grivois et parfois obscènes ou se moquent sans précaution des hommes politiques et particulièrement de ceux que, à l'époque antique déjà, on appelait les va-t-en-guerre. C'est ce que fait dans l'Isistrata le personnage de Démobilisette, une athénienne rusée qui invente l'arme infaillible pour contraindre les maris et les amants à arrêter la guerre qui oppose alors les cités grecques, la grève du sexe.
On n'a rien inventé. En tout cas, des comédies, je suppose, qui ont eu du succès à l'époque.
Bien entendu. Et Aristophane aura des successeurs dans la littérature latine avec des auteurs comme Terence ou Plaute, continuateurs eux aussi de cette veine de la farce populaire. Une veine comique que l'on retrouvera un peu partout dans l'Europe du Moyen-Âge. Un Moyen-Âge, nous l'avons souvent dit ici, très religieux, et qui voit pourtant s'installer un peu plus tard à côté d'un théâtre religieux florissant. On y joue des passions ou des mystères, un théâtre de foire populaire. On se souvient peut-être de ces farces et fabliaux étudiés à l'école ou au collège, dans lesquels les travers de la société de l'époque, l'avarice, la crédulité, etc., sont grossis et tournés en ridicule, comme dans la farce de Maître Patelin ou la farce du Cuvier, dans laquelle un mari se venge de sa maîtresse-femme en refusant de l'aider à sortir du baquet dans lequel elle était tombée.
Très classe. En tout cas, là, on n'est qu'au Moyen-Âge, on imagine qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Hein.
Et nous aurons pour cela encore 3 chroniques, Sébastien. Mmh. La semaine prochaine, nous parlerons de Shakespeare, mais aussi d'autres auteurs du théâtre européen.
Gardons encore un peu de mystère d'ici là, et on se dit donc bonne semaine.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.